5e éventail d'Evento, Biennale internationale d'art urbain à Bordeaux, aujourd'hui 10 octobre, depuis les abattoirs. Utopie et réalité, on accueille sur ce plateau les participants du projet Racines urbaines, une exposition sur les utopies urbaines proposée par Arc en Rêve, Centre d'architecture et Stealth Unlimited, collectif d'architectes et pluridisciplinaire venu entre autres de Belgrade. Et puis, vous l'avez entendu sur nos précédents plateaux, nous sommes sponsorisés par la société Éventail. Dans l'économie chancelante de la culture et des médias, le principe de réalité nous conduit aujourd'hui à réinventer une nouvelle économie de la culture qui fait la part belle à la culture de l'économie. Désormais, sur les 3-8, plus d'émissions sans sponsor ni partenaire. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir celles et ceux qui contribuent à nous assurer un lendemain. Mais après tout, demain, c'est déjà aujourd'hui. Vous en conviendrez, on ne va pas en rester là. Il faut coûte que coûte avancer. Alors avançons, puisque nous sommes au bord du gouffre. Il est temps pour le grand bond en avant. Alors avanti, et c'est d'ailleurs le titre d'une création sonore de Christophe Modica, que je vous propose d'écouter dès maintenant. Avanti.
J'ai marché. Marché. Avanti, me disais-je, avanti. Tu vas bien finir par y arriver. J'ai marché. Avanti. Avanti, me disais-je, avanti. J'ai marché. Avanti. Avanti, me disais-je, avanti. J'ai traversé une zone au poste industriel. Un squat de gitans. J'ai pas rencontré grand monde. Si ce n'est des voitures qui roulent sur les pavés. J'ai marché. J'ai marché.
l'errance à la quête de l'introuvable, c'est peut-être aussi une forme d'utopie. En tout cas, c'est la version qu'en donnait Christophe Modica dans cette création sonore enregistrée hier. Utopie et architecture, une vieille histoire et d'antiques accointances. Depuis qu'un pharaon a décidé de mobiliser tout son peuple pour se faire bâtir une curieuse maison pointue, où 4 millions de mètres cubes de pierre abritent un petit studio de 9 mètres carrés avec un bail pour l'éternité. Aujourd'hui, force est de constater que seuls quelques architectes, les meilleurs potes de nos pharaons contemporains, parviennent à bâtir quelque chose. Les autres sont réduits à s'amuser comme des petits fous avec Archicad en 3D, d'où le développement considérable d'une architecture virtuelle, c'est-à-dire dotée de vertus, dont la première est évidemment de ne jamais être construite. Utopie et architecture, pour en parler sur ce plateau, Francine Faure, d'Arc en Rêve. Le collectif d'architectes Stealth Unlimited, représenté par Anna Djokic et Mark Neylan. Et puis Bruce Bégout, philosophe et écrivain, maître de conférences à l'Université de Bordeaux. Dans quelques secondes, le temps d'une page de pub.
Fun, cool, refreshing. Eventide, one smooth breeze.
Francine Faure, peut-être pour entamer cette discussion sur l'utopie et l'architecture, on pourrait imaginer peut-être un petit panorama historique de l'utopie en architecture. Alors sans remonter jusqu'aux pyramides, comme je le faisais tout à l'heure, on pourrait peut-être évoquer les utopies architecturales du XVIIIe siècle, Étienne-Louis Boulay par exemple, ou Claude-Nicolas Ledoux, ou peut-être d'autres références architecturales de l'utopie. Francine Faure.
Je ne sais pas ce que vous appelez utopie architecturale à la différence d'utopie urbaine ou encore d'utopie de société. En tout cas, les utopies qu'on a voulu citer en référence dans ce projet que nous avons réalisé avec Stealth, qui sont donc les commissaires invités par Michelangelo Pistoletto pour cette exposition Racines urbaines consacrée en effet aux utopies urbaines. Et d'ailleurs, il faudrait quand même rappeler que Stealth, ils en parleront très bien tout à l'heure, ont choisi de placer les habitants et la participation au cœur de leurs propos. Les utopies que nous avons présélectionnées et d'ailleurs référencées pour le travail qui a été donné à faire ensuite avec les dessinateurs de BD, lesquels se sont appuyés, comme vous le savez, sur le travail, le récit, la fiction écrite par Bégout. Ces utopies architecturales, elles sont consacrées aux choses qui forment le cadre de vie et donc à la société. Déjà Constant, dans les années 60-70, je vais le citer, disait « La vie est un voyage sans fin à travers un monde qui change si rapidement qu'il en paraît toujours un autre. Et la New Babylon est une ville humaine, créative, profondément marquée par le passage du temps et les migrations et rencontres de ses habitants. » Donc ces utopistes de ces années-là, il y en a eu d'autres évidemment beaucoup plus tôt dans l'histoire, s'intéressaient, avaient une vision du monde qui plaçait effectivement les gens au cœur de leurs projets et de leur vision d'une nouvelle société. Il en était de même pour Super Studio, il en était de même pour Yona Friedman, qui avait pensé la question de l'environnement et l'avait placé au cœur également de son travail et de son œuvre, bien avant que le développement durable, le gros DD, devienne un mot valise. Il y a eu Archizoom, il y a eu Super Studio, qui étaient des gens qui avaient un discours très politique. Donc moi, je veux bien parler d'utopie architecturale quand je parle de celle-là, si on considère que l'architecture a pour vocation première de faire habiter l'homme. Mais ces gens-là, je pense à Archigram, par exemple, et aux autres que j'ai cités avant, avaient aussi anticipé, par exemple, le monde des réseaux, ces villes spatiales, ces ballons, ces mondes qui étaient déterritorialisés, étaient des espaces collectifs qui, justement, avant que le web n'existe, et travailler déjà sur l'idée de réseau qui n'était pas uniquement ancré sur le sol comme l'est l'architecture qui prend racine et qui est fondée évidemment sur un territoire, les cultures aussi qui ont à voir avec l'architecture, mais comment à un moment donné, il peut y avoir au-delà des frontières et au-delà des limites territoriales, des choses qui se mettent en commun. Voilà, donc je peux en citer d'autres si vous voulez.
Alors peut-être au-delà du name dropping, on peut peut-être s'intéresser plutôt aux principes finalement qui fondent cette architecture utopique. Alors peut-être à défaut du XVIIIe siècle, venons tout de suite au XXe siècle. L'utopie et la modernité, au fond la modernité en architecture, c'est une forme d'utopie. Quand on voit le travail du Bauhaus par exemple, ce rapport étroit entre la forme et la fonction, c'est quelque part une forme d'utopie. Francine Faure.
C'était fondé au départ sur, en effet, une vision utopique. Le propre des utopies, c'est qu'elles ne sont pas réalisées. C'est-à-dire que quand on passe à la phase de réalisation, de concrétisation de ces idées, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui se perdent. Au passage des contradictions, il y a des compromis qui se font, qui ne sont pas, évidemment, voulus, décidés, gérés par les auteurs des utopies. Effectivement, la modernité était une utopie. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de Corbus. Corbus a quand même, du point de vue de l'architecture, fait des choses auxquelles on revient aujourd'hui, c'est-à-dire des immeubles qui étaient des ensembles, je dirais, pour accueillir une collectivité avec toutes les fonctions réunies, avec un rapport à la nature intéressant. Là où Corbus a été dérangeant, c'est lorsqu'il a eu la charte d'Athènes avec certains, effectivement, postulats très intéressant pour le progrès de l'urbanisme, mais où il y a eu une position terroriste qui est devenue ensuite une espèce de, comment dire, de règle, comment dire, de mode même, et de processus.
Une sorte de dogme.
Voilà, on peut parler de dogmatisme s'agissant de Corbus sur sa théorie. Hein. Mais ce qu'il a produit, lui, en tant que créateur, aujourd'hui, je suis désolée, on y revient. Et lorsque on en a parlé dans d'autres rencontres donc de Radio Grenouille, de cette question du vivre ensemble et séparément, de cette question du collectif, si on parle d'architecture liée à l'habitat et au logement, eh bien, on a beaucoup à réapprendre de ce que Corbus avait proposé. Et on y revient.
Alors, on y revient peut-être. Je ne sais pas si tous les architectes contemporains seront de
cet avis. Moi, je voulais insister quand même, excusez-moi, parce que j'ai parlé de références que j'appelle historiques, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, lorsqu'on veut aujourd'hui parler de ces utopies participatives, qu'il y a eu des grands penseurs, des grands visionnaires qui nous ont inspirés. Voilà, on ne réinvente jamais tout. C'est important quand même de revenir aux sources. Mais y compris sur la question de la participation, il y a des gens qui sont des pères de cela, qui sont par exemple Patrick Bouchain, et duquel on a beaucoup à apprendre, notamment sur la question de l'économie. Comment arriver à offrir le maximum aux usagers d'un espace, que ce soit à l'échelle micro comme à l'échelle macro, avec le minimum de moyens, et en ayant recours à des méthodes artisanales qui créent des emplois, et qui, à l'arrivée, et qui produit des espaces que l'on peut s'approprier, qui sont transformés. Il y a des choses qui se faisaient déjà et qui doivent continuer à se faire. Et la question qu'on doit se poser, et là, effectivement, je quitte en effet les utopies. Pourquoi ces utopies, lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre à une plus grande échelle, ne peuvent pas se généraliser? Alors, c'est le cas de Prouvé, il faudra en revenir.
Alors posons cette question à Bruce Pécou, peut-être sur pourquoi l'utopie, justement, en architecture, en partant de cette idée du XXe siècle, hein, de la forme et de la fonction, peut-être pourquoi cette idée de l'utopie? Pourquoi, par exemple, une esthétique architecturale qui serait aujourd'hui, sans doute par une nouvelle génération d'architectes, par exemple Patrick Bouchain, remise en question? Au fond, la place de l'utopie dans l'architecture, selon vous, Bruce Pécou?
Alors, je n'en sais rien, parce que comme je ne suis pas un penseur de l'architecture, je vous avouerai que je pourrais difficilement répondre à votre question sur le rapport entre architecture et utopie. Alors, bien évidemment, il y a plein d'architectes qui sont inscrits dans des projets politiques de réforme de la société. Donc, ça passait aussi par la réforme de l'urbanisme et par les propositions architecturales. Mais bien évidemment, l'utopie va bien au-delà que de la simple proposition architecturale et urbanistique. Enfin, il s'agit de repenser totalement la société, les rapports entre, disons, les rapports économiques, les rapports sociaux, même les rapports culturels, même les rapports de genre aussi entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'utopies, notamment au XIXe siècle, Fourier, etc., qui sont aussi des utopies liées à la relation entre les femmes et les hommes, aux passions amoureuses. Donc l'utopie va bien au-delà simplement de ce qui est peut-être le plus visible, à savoir l'architecture, l'urbanisme. Enfin, l'architecture n'est que la concrétisation finalement d'une vision du monde qui dépasse de beaucoup qui dépasse de beaucoup simplement la simple proposition, je dirais, matérielle du bâtiment. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, l'architecture se réduirait simplement à construire des bâtiments, donc ce ne serait pas vraiment intéressant. Donc à chaque fois, c'est porté quand même par une représentation à la fois critique de l'état présent et aussi une invention du futur. D'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'utopie. Moi, c'est à la fois ce double aspect, disons, de critique du présent et d'invention, d'imagination du futur. Et je dirais même que dans les deux, c'est même plutôt l'aspect de critique du présent qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'à la rigueur, l'imagination du futur, laissons les gens et les créateurs le faire. Et donc, bien sûr, on peut se projeter, on peut faire de la prospective, etc. Mais c'est très souvent... quand on voit rétrospectivement ce que les gens ont imaginé, ce qui a été réalisé, bien évidemment, la plupart du temps, je dirais, ça, comme disait Francine, la plupart du temps, l'utopie ne se réalise pas. Par contre, la part critique de l'utopie est intéressante. Je dirais que c'est un peu la part dystopique de l'utopie. C'est-à-dire, l'utopie du futur, c'est toujours une dystopie du présent, en fait. C'est toujours une critique de l'état présent à travers, finalement, l'imagination d'un lendemain.
On peut peut-être proposer à Stealth... On peut peut-être proposer à Stealth de rebondir sur cette question. Au fond, l'utopie en architecture, elle est d'abord nourrie de la critique de l'architecture présente. First element of utopia in architecture is firstly the criticism of a contemporary architecture, of the present architecture. Stealth, Mark Nealon.
Yes, it's true, and it's equally interesting to see what we now regard utopian architecture, because utopian architecture is either not built or actually something which in retrospect we recognize as failed. Because I think that if the plans from the 60s and the 70s, for instance, which were bold plans, which were possible to make in a time when there was a huge perspective in society towards improvement, if they would have gone on and if they would have been realized as thought, we would not recognize them even as utopian. They would be just reality of the day. I don't know, should I give a moment for the translation?
Donc juste, il reprend un petit peu ce qui a été dit avant sur le fait que la notion même d'utopie impliquait le non-réalisé ou même possiblement dans le réalisé l'échec. Et que aujourd'hui, si on prenait justement par rapport aux années 60, où la force ou la capacité à réaliser l'utopie était sans doute une période des plus importantes par rapport à ça, puisqu'on était dans une période de profond développement de la prospective liée au progrès. Si véritablement ces projets-là avaient été tous réalisés, ils ne seraient par définition plus utopiques, puisqu'ils seraient juste le présent.
Alors, l'architecture, c'est la maîtrise d'œuvre, c'est la maîtrise d'ouvrage, et c'est aussi quelque chose qu'on appelle maîtrise d'usage, c'est-à-dire le droit des usagers de pouvoir influencer concrètement sur la manière dont cette architecture est produite. Est-ce que c'est, selon vous, utopique de penser que cette maîtrise d'usage, elle a aujourd'hui, elle doit avoir autant d'importance que les deux autres, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage ? Francine Faure ?
Évidemment. Et d'ailleurs, celui qui a inventé ce concept s'appelle Renzo Piano. Il l'avait mis en application dans un petit village à côté de Gênes pour un grand projet. Un petit projet, justement. Il y avait une tente qui était installée sur cette place de ce petit village où les habitants ont participé à la réflexion pour la transformation de leur quartier. Et Piano était très clair. Et là, moi, en tant qu'arc-en-rêve, je m'associe à ce type de posture. L'association des habitants à la réflexion en amont de toute proposition était là pour nourrir et renseigner et la maîtrise d'ouvrage public, les politiques qui évidemment ont aussi une place, et l'architecte, mais en aucun cas pour que les habitants soient les architectes à la place d'architectes. Dans ce projet-là, il y a d'autres projets où le choix qui est fait, c'est que ce soit favoriser l'autoconstruction. Mais c'est déjà énorme et très intéressant que le projet de l'architecte ou le projet des élus, le projet des promoteurs privés soit nourri, instruit, inspiré par la parole des habitants que l'on connaît. Si on les connaît, lorsqu'on fait des opérations totalement neuves, on ne sait pas quels seront les futurs habitants. Il y a d'autres moyens pour ça. C'est le travail sociologique, excusez-moi, je prends un autre exemple parce que c'est celui qui me vient immédiatement dans l'affiliation de piano. Le travail qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie, il a travaillé donc avec les anciens, je ne sais plus comment les appeler, Kanak. Voilà, mais avec donc des. Il y a un terme pour parler de ces anciens. Il est allé à la rencontre de ces populations et c'est pour ça que le projet qu'il a fait, qui a été instruit, là, l'âme et le contenu de ce projet a été instruit parce qu'il a appris par les gens qui étaient concernés par ce travail. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les décideurs ont à apprendre de l'autre. Et pas nécessairement l'inverse. On est là, d'une part, pour être au service d'un usage, mais aussi pour apprendre des usagers, futurs usagers, soit par des pratiques savantes de sociologie, d'anthropologie, soit par des dialogues directs, ce que peut devenir l'espace qui est en transformation. Et que les habitants ne soient pas exclus du processus. C'est ça l'essentiel. Après, il y a aussi l'autoconstruction, mais c'est encore. Ça, c'est plus rare et ça restera toujours rare.
Et bien, justement, sur cette idée d'autoconstruction, au fond, c'est peut-être aussi une des utopies contemporaines en matière d'architecture. C'est l'architecture sans architecte.
C'est l'autoconstruction, c'est l'architecture majoritaire, excusez-moi.
On va peut-être proposer à Stealth de réagir sur cette question. Est-ce que l'architecture sans architecte, c'est une utopie ou c'est quelque chose qui est véritablement, comme le dit à l'instant Francine Faure, quelque chose d'historique et au fond, une pratique régulière et courante de l'architecture. Stealth.
Les architectes
construisent 5% de l'architecture. Ça fait la traduction. So maybe one kind of a utopia, a contemporary utopia, would be the architect-less architecture. So what do you think? Auto-construction. So do you think that auto-construction, architect-less architecture, is a kind of utopia, or is it a traditional reality of architectural practice? Stealth.
Yeah, yeah. I don't think it's a utopia. I think if you look at the world today, I guess that about 80 or 90% of the architecture is, or let's say buildings, if we call it all architecture, is constructed without architects. And for most part, this goes quite okay, and it has been a very long tradition. So I think there is nothing utopian in it. There are maybe some aspects to it which we could reconsider. One is the question whether we can afford it to have 80% of, let's say, of buildings worldwide constructed without any, let's say, professional assistance or professional capacity to assist in that. And one of the reasons is simply the lack of resources, the quick urbanization on the planet. So I think actually it would be good that there is some involvement of architects in that. Another thing that is...
Je vais déjà traduire ça. Donc effectivement, il approuve la remarque en disant que si on se remet à l'échelle mondiale, aujourd'hui on peut considérer que 80 à 90% de l'habitat ou du bâtiment est en fait construit effectivement sans architecte et que la question serait plutôt de est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui à l'heure aussi d'une certaine fin des ressources et de développement démocratique et de gestion des ressources à l'échelle mondiale, peut-on se permettre finalement, parce que cette construction d'architecture sans architecte, jusqu'alors, c'est plutôt bien passé. Mais aujourd'hui, peut-on se permettre de se passer de cette assistance, d'une forme de compétence professionnelle dans cette gestion des ressources-là, y compris de la ressource architecturale.
And if we look at, let's say, the other 20% of the production of architecture, let's say which takes place here, in, for instance, in France or in Holland, where I come from. In that, there is also there's nothing new about self-construction or a large impact of inhabitants in the construction or the envisioning of architecture. It's something which has been done traditionally, but in our societies has been also quite a topic since the 1950s, 60s on. What we see now is that these mechanisms through which we produce our buildings, they got quite a lot institutionalized. And with our societies, which are changing, which are becoming more dynamic, where also all kind of tools for communication and for imagining and co-construction and co-invention are available, we have again to reconsider the role of architects and let's say, their clients or the people for whom they are working.
Donc il considère que bon, même dans les 20% restants, aujourd'hui, ce qui est sans doute à reconsidérer, c'est plutôt la place et le rôle de l'architecte dans une société qui est peut-être dans une forme de dynamisme plus important ou en tout cas différente, avec des outils de communication qui pourraient permettre de développer justement des formes de co-construction ou de partage de compétences entre l'acte professionnel et l'acte de bâtir et les usages. Enfin, on en revient au sujet un petit peu d'avant. Donc peut-être réinterroger aujourd'hui le rôle et l'endroit de coopération avec l'architecte.
Éventail apparemment extrêmement sensible à ces propos. Je vous propose qu'on aborde maintenant l'exposition « Il était une fois demain », une exposition ici aux abattoirs de Bordeaux. Et je voudrais commencer pour en parler par lire quelques mots de Bruce Bégou, qui a écrit le texte qui accompagne, qui fabrique avec les images cette exposition. Nous sommes le 22 février 2031. Cela fait plus de 2 mois que The World a franchi les piles du pont Bacalan-Bastide. Certains immigrants se sont installés dans la ville, d'autres ont choisi de rester sur le paquebot en attendant de trouver une solution plus adéquate à leurs besoins et à leurs désirs. À La Benauge, s'est ainsi créé un nouveau quartier islandais en coopération coopérative, en construction coopérative. Quelques 800 habitants ont ainsi investi un nouveau projet urbain. Ce sont les premiers à franchir le pas. Ils sont en train de développer un potager collectif et accueillent une ONG africaine, du Mali pour être exact, qui vient en Europe enseigner aux anciens colonisateurs les principes d'une agriculture biologique adaptée au réchauffement climatique, à la gestion économe de l'eau et des effets de la chaleur sur la végétation et l'habitat. Un texte de Bruce Bégou. Donc Bruce, peut-être quelques mots pour contextualiser ce texte. Évidemment, c'est une projection, c'est une fiction.
Ce texte en particulier ou l'ensemble ?
L'ensemble.
Ah d'accord. Parce que
ça n'était qu'un exemple.
Oui. Ce texte en particulier, d'ailleurs, était une idée de Francine Faure. L'idée que des gens viennent d'Afrique comme ça nous réenseigner des savoirs que l'on avait oubliés. Le texte en fait est né d'une rencontre avec Stels, qui avait comme projet de faire une exposition. Non pas classique sur l'utopie architecturale, mais en fait sous la forme d'une fiction. Et donc, je les ai rencontrés au printemps dernier, puis on a un peu réfléchi à l'idée de construire en fait une sorte de synopsis, quoi, d'histoire, qui allait servir de support narratif pour les graphistes et les dessinateurs. Donc, mon travail en fait a été de concevoir avec eux une histoire. Dans un temps relativement court, parce que c'est 2030, donc finalement, il était une fois demain, mais c'est vraiment demain, hein, c'est pas après-demain, donc c'est vraiment, disons, le statut de, on pourrait dire, science fictionnelle était assez particulier, parce que finalement, c'était une sorte de quasiment de fiction du présent, parce qu'on suppose que dans 20 ans, peu de choses auront véritablement changé. Et donc mon rôle a été d'écrire, voilà, d'inventer une histoire, de l'écrire en me basant sur tout le travail préparatoire qu'avait fait Stels pendant plus de 8 mois à Bordeaux, parce qu'ils sont arrivés en fait avec des propositions théoriques de contenu concernant différents aspects de l'utopie urbaine, mais aussi de la ville de Bordeaux, puisqu'ils avaient rencontré beaucoup d'acteurs culturels, économiques ou associatifs à Bordeaux. Et donc j'avais une sorte de cahier des charges en fait. Parce qu'il y avait des thèmes que je devais développer. Donc mon travail est en quelque sorte un travail de tissage. J'avais des thèmes comme ça et j'ai dû trouver avec un fil narratif, j'ai dû tisser tous ces éléments pour en faire une sorte de tapisserie de Bayeux. En fait, c'est une sorte de fresque comme ça qui représente une histoire.
Une sorte de caverne ultra moderne. Alors cette date de 2030, elle n'est peut-être pas complètement un hasard. C'est peut-être quelque chose qui correspond à un calendrier des réalités, retour de l'utopie à la réalité peut-être, puisque 2030, c'est quelque part quelque chose qui pourrait correspondre aux échéances d'un grand, magnifique, magistral projet qui s'appelle Euratlantique. Est-ce qu'il y avait de votre part quelque part une manière de répondre à ce qu'est Euratlantique par autre chose ?
Non, pas du tout. Non, on n'était pas du tout fixé sur ce simple projet particulier. L'idée, c'était plutôt parti
du constat qu'en 2030...
Parce qu'entre Euratlantique et puis les Maliens qui nous apprennent à faire des jardins plus économes, il y a quand même une sacrée différence.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans...
On ne sait pas encore ce que va être Euratlantique.
Oui. D'ailleurs, dans le récit, on modifie un peu le projet Euratlantique, puisque on réinvente un quartier de la décroissance du côté de Floirac. Donc, non, l'idée est surtout partie de ce chiffre d'un million d'habitants, puisque tout le monde a dans l'agglomération
Bordeaux,
fantasme.
Millionnaire.
Voilà. Donc on est parti plutôt de cette idée du million, et c'est à partir de cette idée du million qu'on a construit la fiction, puisqu'en fait, l'histoire, concrètement, c'est il y a une immense crise financière en 2030, ce qui a... Je dirais, n'est peut-être pas tout à fait de l'ordre de la fiction, puisque c'est déjà un peu notre réalité. Mais enfin, celle-ci, disons, elle est beaucoup plus conséquente. Elle se conjugue à une crise écologique, puisque des volcans islandais se réveillent. Et donc, toute la population islandaise est obligée d'émigrer. Et certains viennent, en fait, sont accueillis à Bordeaux, parce que Bordeaux attend fiévreusement son millionième habitant. Et il leur manque 10 000, les 10 derniers 1000, en fait, immigrants. Et donc, il propose à ces Islandais de venir s'installer à Bordeaux. Et donc la fiction commence en fait avec cette rencontre entre le paquebot sur lequel se trouvent ces immigrants islandais et la population bordelaise, suivant le principe assez classique finalement du conte philosophique où on utilise des personnages venant d'une terre étrangère pour confronter une double vision, comme dans les Lettres persanes d'un autre auteur bordelais. Donc,
Montesquieu, je crois.
Oui, il me semble. Oui.
Alors, une exposition qui est à voir aux abattoirs de Bordeaux. Il est l'heure maintenant de retrouver la leçon de géographie absurde du professeur Jérémy.
Eh bien, bonjour Xavier et bonjour à tous. À l'heure de cette quatrième déjà leçon de géographie absurde, le temps me semble venu de vous proposer un échange d'une nature un peu différente. Alors en effet, les premières observations que j'ai pu faire m'amènent à vouloir mettre en discussion et en pratique un modèle modestement audacieux au croisement des avancées les plus récentes de l'analyse spatiale et de la planification stratégique. Ce modèle, que j'ai baptisé « modèle de planification de la sérendipité des bordures urbaines », mot placebo, a l'ambition de répondre aux questionnements les plus actuels, tout en synthétisant le meilleur des outils et des méthodes urbaines. Alors, un travail de terrain approfondi a accompagné la mise au point du modèle. Coller au terrain me semble une condition non négociable de l'élaboration d'une pensée scientifique solide et rigoureuse. Permettez-moi d'ailleurs de précéder les critiques qui ne manqueraient pas de fuser quant à la temporalité réduite de cette immersion bordelaise. Certes, 3 jours de terrain peuvent paraître bien courts à l'observateur non averti. Je rappellerai donc que l'une des exigences du laboratoire de recherche dont j'ai l'honneur de faire partie, le CRESAT, le Centre de recherche en sciences abscons du territoire, et dont la réputation n'est plus à faire, et de travailler main dans la main avec les autres sphères de la société civile. Or, il est acquis aujourd'hui que la temporalité du projet fait loi. Quel que soit le domaine, de l'urbanisme à la culture, en passant par le social, les projets se déroulent sur des périodes de plus en plus courtes. Prenant acte de cette situation, nous avons choisi de la précéder en expérimentant des temps de recherche réduits et une philosophie de l'urgence, stimulant par là même la créativité des chercheurs impliqués. Alors, quel terrain ? Eh bien, en bon adepte du localisme méthodologique, j'ai décidé de porter mon regard sur le quartier Saint-Jean-Belsier. Ce dernier, dans lequel nous nous trouvons incidemment, constitue le cœur du projet de rénovation urbaine Euratlantique. Il est à l'origine d'une abondante production de discours sous la forme de brochures, de plaquettes, de documents ou de notes. Et c'est l'étude de ce discours qui a fourni la matière brute permettant de poser les premiers jalons de notre modèle de planification de la sérendipité des bordures urbaines, le mot placebo. Alors, pour la clarté de l'exposé, je vous rappelle que la sérendipité, c'est l'action de trouver quelque chose en cherchant autre chose. Par exemple, le matin au réveil, j'ouvre le placard pour prendre des céréales et je change d'avis en tombant sur le miel. Ou alors je me promène en ville avec une destination, un objectif précis et je tombe sur un concert de rue qui me donne envie de rester. Ça, c'est la sérendipité. Pour cette leçon, je vous propose d'étudier avec moi le champ lexical du projet Saint-Jean-Belsier, tel qu'il apparaît dans la note explicative intitulée « L'esprit des domaines » et librement consultable sur Internet. Ce qui suit est une lecture extensive de cette note. Dans un moment de mutation profonde des territoires et des pratiques urbaines, le contexte n'est plus une donnée statique ou un acquis. C'est un équilibre à établir entre un site, une situation et un projet. Il s'agit d'associer bureaux et logements dans de petites opérations complexes pour créer une offre urbaine fractionnée et diversifié qui sera le contrepoint du caractère monofonctionnel des domaines. L'altérité et l'échange entre bâtiments vus en termes sociaux et environnementaux seront amenés à cette échelle urbano-architecturale nécessaire au rééquilibrage urbain. Les typologies alternatives sont celles qui ne préjugent pas de l'installation d'une fonction. Un socle de 6,40 m de hauteur, 6,40 m, introduisant la possibilité d'une mixité des usages, y compris au sein d'une même fonction, permet la transformation ou l'évolution de ces usages. C'est une autre façon de penser l'habitat, le travail ou les équipements qui est proposé au contact du sol. Plus loin, l'appréhension des modes de vie se traduit d'abord par une décomposition des usages pensés selon trois strates, le socle, le podium et les émergences. Le socle est le lieu des fonctions alternatives explicitées par la mise en œuvre de rez-de-chaussée de ville. C'est la situation qui guide la fonction et c'est la flexibilité et l'évolutivité des situations qu'il faut pouvoir gérer. Ce socle porte la réflexion sur la ville des échanges. Le podium, c'est l'échelle de la ville horizontale, le podium. Celle des rues que nous pouvons limiter à des hauteurs modestes situées entre 14,50 m et 17 m pour des vis-à-vis supérieurs à 16 m. C'est une relation urbaine que l'on pourra qualifier de classique, déclinée en concepts typologiques très variés, adaptés à chaque situation du projet. Les émergences sont, elles, conçues en valorisant des horizons lointains dans une conception héliotropique. L'ombre portée, comme la lumière réfléchie, seront les matériaux pour construire une relation d'altérité entre les bâtiments et les fonctions. C'est l'idée de l'ombre positive des logements, protégeant les bureaux dans de petites opérations complexes confiées à un seul maître d'ouvrage. Voilà. Nous tenons bien là les indices d'une mise en mots, sinon en pratique, de la planification de la sérendipité urbaine. Alors bien entendu, ces recherches ne font que commencer et les leçons des prochains jours ne manqueront pas de faire l'écho de l'avancée de ces analyses. Je vous remercie de votre attention.
Un professeur Jérémy Garniaud très en verve aujourd'hui, avec l'aide, je crois, de Thierry Lafolie. On va venir maintenant, dans cette dernière partie de l'émission, à accueillir la société Éventail, qui nous sponsorise pour un léger courant d'air frais dans cette émission. On se présente, moi c'est Xavier.
Bonjour Xavier, je suis Mehdi de la société Éventail, et je passerai le micro à mes camarades et mes amis tout à l'heure, Caroline, Carole et Manu. Et alors, avant de vous proposer nos solutions globales adaptées pour un Bose 100% de transparence, nous sommes ravis de vous sponsoriser et de vous permettre de venir coasser aisément dans l'air bordelaise. Et vraiment, c'était une vraie satisfaction pour nous d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui.
Une satisfaction partagée.
Merci bien, Xavier, et à toute ton équipe. Alors, aussi, également, comme chez Éventail, nous sommes tous des amis, nous vous aimerions spécifier le message pour nos amis hollandais et je vais me permettre de décrire en quelques mots anglophones et Carole, ma camarade de droite, va vous traduire un petit peu l'état d'esprit d'Éventail. For Evento, the Eventail company provides total solution suitable for balance imbalances. It enhances upfront flexibility and creativity with a commitment to optimize the relationship. A buzz 100 transparency.
Éventail est une plateforme d'expérimentation tonique dans laquelle nous montrons un modèle alternatif de mieux vivre ensemble pour optimiser votre processus opérationnel et cela bien sûr tous ensemble. Éventail, nous sommes la réalité de vos utopies.
Alors je me permets de continuer en fait pour parler d'utopie. Donc en fait, Éventail, c'est l'utopie réalisée à 100%. On a parlé tout à l'heure des différentes notions afférentes à l'utopie. Eh bien, Éventail, c'est l'utopie réaliste entre rupture et héritage qui à la fois critique le présent dans l'urgence, mais aussi le futur de demain.
Au fond, on comprend bien votre présence ici à l'occasion de cette édition 2011 de la Biennale d'Evento. Éventail, c'est une entreprise réévolutionnaire.
Tout à fait. Alors la réévolution, c'est une notion qui nous tient particulièrement à cœur et on propose chez Éventail une utopie à un prix exceptionnel. Il ne faut pas oublier quand même que l'argent n'est pas une fin mais bien un moyen chez Éventail et que la rentabilité de l'idée du million a une notion de projet de l'horizon 2030. Excusez-moi.
Tout à fait. Et si je peux me permettre de te compléter, Manu, je te rejoins sur cette question du million. Pour nous, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est d'être en open souplesse et en toute créativité pour proposer un modèle alternatif du mieux vivre ensemble. Et ça, on peut, dans les modèles, dans la méthodologie des Éventail, aujourd'hui, je pense que chacun en a conscience, on a un réel besoin d'authenticité. Et il est important, du coup, de travailler, d'une part, à irriguer l'espace public, en collaboration avec le territoire et ses décideurs.
car nous agissons bien évidemment au cœur de la société, parce que un, c'est un individu à chaque fois c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un pour chaque quelqu'un. Comme le dit Manu très justement, chez Eventail, le moi c'est tu et le je c'est nous.
Alors, vous étiez présent tout au long de cette semaine dans la gare Saint-Jean, ici à Bordeaux, avec notamment un espace bien-être. C'est très important, le bien-être, surtout pour les bien-nés. Au fond, Eventail, c'est un urbain de jouvence.
Oui, tout à fait. Alors, chez Eventail, évidemment, on remet l'humain au centre de la convergence de la participation. Et il est central pour nous de territorialiser les territoires pour un équilibre entre rupture et héritage, puisque la notion de frontière est mobile chez Eventail. Donc, en fait, pourquoi toute cette réflexion sur la territorialisation, la culture de la frontière et de la mobilité des territoires? Eh bien, c'est pour un 100% dialogue direct. On a parlé tout à l'heure du dialogue direct dans le rapport entre participation collaborative et concepteur de projet. Eh bien, chez Eventail, on est 100% d'accord avec cette idée. Et par exemple, dans notre management collaboratif, c'est quelque chose qui s'exprime par le warm welcome. C'est ce que nous avons fait plusieurs reprises dans cette émission, en applaudissant pour réassurer et reconfiantiser chacun.
Mais une présence ici à Bordeaux qui n'est pas qu'éphémère à l'occasion de cet événement. Votre intention, c'est bien entendu de développer le développement, d'installer le durable dans la durée.
Tout à fait. On est pour une croissance et un développement durable de l'utopie. C'est-à-dire qu'il y avait l'utopie jusqu'à présent, mais il y a aussi la croissance et le développement de l'utopie, ce qui permet de la réaliser dans le présent et dans le futur, en même temps que dans le passé.
À très long terme.
Alors, ce qui est important, et je me connecte à toi, Manu, sur cette question, c'est que notre énergie inventive fait d'Eventail. Notre société est un activateur collectif de réévolution des espaces. Et je vous entendrai rire, chers amis, tout à l'heure, et nous rions beaucoup chez Eventail. C'est terrible. Nous rions beaucoup car nous essayons de redonner de la biche. Pourquoi de la biche? Tout le monde parle de redonner de l'élan, redonner de l'élan au territoire, redonner de l'élan aux dynamiques. Eh bien, nous redonnons de façon féminine la biche à tous nos acteurs et nos amis d'Eventail. Nous sommes installés, tu l'as dit, Xavier, pendant quelques jours encore jusqu'à dimanche dans la fosse de la gare Saint-Jean. Il n'y a ni lion, il n'y a que des biches dans la fosse de la gare Saint-Jean. Et je peux vous assurer que de 9h à 17h, ça zouille.
Petite chérie, je suis absolument d'accord. Féminisons, c'est très contemporain.
En tout cas, une relation client exceptionnelle, c'est vraiment cool. Le one-to-one, du one-to-one au one-to-two, c'est le bordel.
Non, parce que nous sommes même prêts. Enfin, chez Eventail, ce qui est important, c'est que nous recyclons les énergies. Nous sommes tout le temps en autoconstruction, mais en autoconstruction collective, bien évidemment. Nous avons plusieurs pôles, et dans le passage d'un pôle à un autre, tout se termine à Imagine, comme le dit John Lennon, Imagine all the people, et nous créons tous ensemble des choses communes. Par exemple, Philippe, qui est passé, je pense que c'était samedi, Philippe est passé samedi, nous avons fait un one-to-one, tous les deux, et les phrases de Philippe font maintenant partie de nos credos. Donc je voudrais citer Philippe, le langage c'est la traduction des pensées, le langage c'est la pensée. Et je voudrais que nous remercions tous chaleureusement Philippe.
Au fond, de ce que j'entends, vous incarnez réellement la nouvelle économie créative.
Oui, tout à fait. Alors, l'économie créative et la création économique, vous en avez parlé tout à l'heure en annonce, c'est une mixité transversale. Voilà, tout à fait. Et on aime la transversalité chez Eventail, on aime la mixité, on aime l'intergénérationnel, on aime l'intercommunautaire, l'interethnique, et tout ce mélange des cultures, des populations, des expériences, des particularismes, des subjectivités de chacun, fait qu'on met au croisement de la temporalité l'utopie de chacun pour la réalisation de tous.
De l'utopie au concret, nous sommes allés à votre rencontre dans cette gare Saint-Jean où vous meniez une rencontre avec vos clients, avec le public, avec nos amis. Eh bien, on va entendre ce qui se passe gare Saint-Jean dans le stand d'Eventail.
Tout le monde a son pôle. La plateforme d'expérimentation est ouverte. Nous travaillons en pôle installé et simple, accessible à tous pour plus de traçabilité. Venez découvrir de l'intérieur un modèle alternatif qui optimise le processus opérationnel. Les performeurs éventail sont à votre pour vous guider dans la plateforme, vous faire comprendre éventail et vous sourire. Éventail, le buzz 100% transparent.
C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques, ça reflète à la lumière et sans elle, du vent.
L'open souplesse. Et éventail, c'est aussi réinterpréter. Pour une durée encore
indéterminée.
Dans une certaine
confiance.
Et surtout, en employant un
modèle alternatif pour mieux vivre ensemble.
Et développer une
participation.
Je vous dis merci.
Alors, il y a des choses très, très, très importantes. Nous luttons positivement contre le divorce, contre la guerre et contre la maladie.
Éventail, plus tard, c'est déjà demain.
Oui, alors voilà, donc on a choisi cet endroit de la gare Saint-Jean pour plus de mixité, puisque c'est quand même là que ben, on trouve toute une communauté intergénérationnelle, intercommunautaire, interethnique,
des personnes, des influences et des origines. Éventail mutualise en fait les expériences et les concepts de chacun. Et c'est dans ces savoirs partagés, on peut peut-être employer le terme ici aussi, que se tisse une espèce de connaissance informelle mutualisée.
Qu'est-ce que vous vendez exactement ?
Un léger courant d'air frais.
D'accord. Ça coûte combien ?
C'est gratuit. C'est gratuit. Totalement gratuit. C'est,
Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?
C'est une bonne question. Et pourtant, la réponse est claire, nous n'avons rien à vendre, à part du vent. Et qui connaît le prix du vent ? Personne. Donc,
d'ailleurs, je voudrais réagir sur ce que disait Philippe.
Oui.
Justement, hier, réagir, Philippe, moi, m'a beaucoup apporté. J'ai fait un one-to-one avec lui pendant 30 minutes. Il me disait, l'air, par définition, c'est l'élément libre. C'est ce qui traverse les barbelés et les miradors. Voilà.
Alors vous pouvez danser sur place. Vous pouvez danser sur place. Levez les bras, les mains. Allez-y, détendez-vous, riez.
Fun, cool, refreshing. Evento, one smooth breeze.
Evento nous a confié la responsabilité de cet espace, 18 mètres sur 5 mètres, pour révolutionner aussi l'espace de la gare Saint-Jean. Et donc nous avons réfléchi nous-mêmes, les 12 sociétaires en quelque sorte d'éventail, depuis des mois et des mois, des réflexions harassantes mais créatives au possible pour mettre en place ce dispositif qui est absolument efficace, n'est-ce pas ?
Éventail, un petit courant d'air frais.
Space, c'est ce qui nous permet d'être créatif et dans une traçabilité en fait. Parce que pour nous c'est important d'œuvrer dans la traçabilité pour une plus grande transparence puisque ben, chez Eventail, moi c'est tu et je c'est nous.
Chez Eventail, chaque personne étant un, chaque un est différent et tous ces uns différents forment une société.
Et tout ça, ben, quand même dans un but qui est celui de rééquilibrer les déséquilibres et de redonner de la biche. On vous a parlé de la biche déjà, oui, d'accord, bon.
Ça vous dit ? Allons-y.
Un son enregistré hier dans la gare Saint-Jean, c'est-à-dire dans l'espace public. Après tout, investir dans l'espace public, c'est d'abord investir, hein, pour une société. On entend évidemment dans ce son la question du langage, un langage particulièrement travaillé par la société Éventail, un argumentaire de vente gratuite, peut-être sur cette question du langage que vous utilisez.
Alors, le travail qu'on a mené avec, pour nous, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est que le langage est désinvesti. En tout cas, il est employé à toutes les sauces, tous les mots, que ce soit, évidemment, c'est les publicitaires, les premiers, ceux qui sont toujours dans les innovations par rapport à ça. Alors, évidemment, là, je contrôle mon langage parce que on n'arrête pas de faire de l'éventail, mais Franck Lepage, comment ? Oh, là, c'est sérieux. Franck Lepage raconte par exemple qu'il y a un mot qui a disparu des manuels de management depuis les années 80 et que ce mot c'est hiérarchie et que le fait de ne plus nommer les choses permet d'annihiler les combats. Par exemple quand Nicolas Sarkozy parle entre les deux tours de la présidentielle dans son discours d'amour, c'est quelque chose qui me questionne, parce que l'amour, c'est soit du chant amoureux, soit du chant religieux. Et donc, on trouve qu'aujourd'hui, dans la pub, évidemment, enfin, tout autour de nous, moi, j'ai vu une pub il n'y a pas longtemps pour une banque, puisque les banques travaillent beaucoup leur image à l'heure actuelle, qui disait « toutes les valeurs ne sont pas cotées en bourse ». Et donc, le langage perd de son sens. Et nous, on pense qu'il est urgent de le réinvestir, et du coup, par ce dispositif, d'interroger les gens sur leur propre approche du langage.
Et une très grande justesse de ce propos, d'autant plus que ce langage du marketing, ce langage de la publicité, qui a investi le commerce, qui a investi l'industrie, il est aujourd'hui en train d'investir la culture.
Oui, tout à fait. Je pense que dans l'ensemble des dossiers culturels, on peut retrouver tout ce jargon-là. L'idée pour nous, c'est pas de dire que les mots n'ont pas de sens. On y croit vraiment à ce sens-là. On n'est pas dans un cynisme, en fait. On cherche vraiment à ce que... l'idée, c'est que chacun puisse donner sa signification de ces mots-là et voilà, qui reprennent du sens, quoi.
Et de la confronter, parce que ce qui est fort dans l'idée d'être à la gare, c'est qu'on rencontre évidemment des publics d'Evento, mais on rencontre aussi des publics qui sont des passants et qui sont confrontés à cette société qu'on a mise en place. Jeudi ou vendredi, il y a quand même une dame qui voulait nous poser un CV. Et voir jusqu'où ça va, c'est extrêmement troublant. Et juste pour finir avec ça... on ne propose pas de solution, on est en recherche et en confrontation et on regarde ce que ça produit. On est là pour ça.
Les fictions sont créatrices de réalité et c'est intéressant d'observer quelle réalité ces fictions créent. Vous sortez de la gare Saint-Jean, là, peut-être pour aller dans d'autres espaces, proposer d'autres formes de rencontres du public.
On a prévu quelques surprises, Xavier. Alors c'est vrai que vous nous retrouvez peut-être à l'extérieur de la gare Saint-Jean. Notre objectif, c'est de ne pas être totalement en harmonie avec seulement cet espace. On réfléchit en one-to-one, en corporate, je ne vais pas reprendre les termes, mais là pour de vrai, on réfléchit à d'autres formes aussi d'interrogation mutuelle. Et comme tu l'as dit, Carole, nous, on essaye aussi de décrire et de traduire avec les personnes qu'on rencontre. On n'est pas seulement dans une... On n'essaie pas de donner de leçons, on met plutôt un miroir et on regarde ensemble ce miroir-là à partir de quelques mots ou de quelques expressions.
Oui, je voulais revenir sur ce qui se passe dans cette gare Saint-Jean et la manière dont les gens réagissent. Il y a quelque chose qui, pour moi, est extrêmement inquiétant, c'est que ben, peut-être le quart des personnes ont énormément de mal à comprendre en fait, le second degré et à voir que c'est possible que ça soit faux. Donc, en fait, énormément de gens acceptent totalement qu'il y ait un emballage, une vitrine vide de tout contenu sous-jacent. Et ça me paraît extrêmement inquiétant.
Mais le pire, c'est que c'est pas faux.
D'autant plus qu'on l'a travaillé en amont, comme disait tout à l'heure dans la bande son Mehdi, et qu'on a vraiment réfléchi aux termes qu'on employait. On a essayé d'en mettre le plus possible, et on se disait non, ils vont forcément voir que c'est un fake, et en fait, ça passe pour une réalité.
Oui, oui, non, mais voilà, l'idée pour nous, c'est pas du tout de faire croire à tout prix, quoi. C'est l'endroit de cette discussion possible ensuite et de ce que ça peut produire, quoi.
En tout cas, merci beaucoup à vous, à nos généreux sponsors, d'être venus sur ce plateau pour nous exprimer leur point de vue, leurs convictions profondes. On se retrouve demain, nous serons place des Victoires pour un nouvel éventail d'Evento. Et rendez-vous chaque jour sur les ondes de Radio Grenouille et de Radio Campus Bordeaux à 11h. Merci à tous.